Bonjour Marie-Estelle Dupont.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute et vous êtes également l'autrice du livre « Réussir son divorce » qui est donc paru chez Larousse. Alors on va donner quelques chiffres peut-être pour commencer cette émission sur le divorce. Il y en a de plus en plus, il paraît, des divorces. Alors à quel point est-ce que c'est vraiment le fameux un couple sur deux, un mariage sur deux finit par un divorce, c'est ça ?
Alors avant tout, je voudrais juste dire un petit mot à propos du titre qui peut choquer beaucoup de personnes, qui a été un choix avec l'éditeur, puisque évidemment on se dit qu'un divorce c'est d'abord un échec. Mais justement, parce que je vois dans mon cabinet que beaucoup de divorces se transforment littéralement en pugilat qui dure des années et dont les gens sortent ruinés moralement, ruinés financièrement et avec des enfants plus ou moins complètement déséquilibrés, j'ai envie de dire que l'on peut se séparer dans le respect l'un de l'autre et se séparer proprement, se séparer bien, que c'est possible.
Nous, on aime beaucoup le titre de votre livre.
C'est très l'objectif de ce titre paradoxal et provocateur, justement. De dire que ce n'est pas une fatalité de se faire la guerre.
Et dites-moi, ça intervient aux alentours, je crois, des 50 mariages, le divorce. Comment vous l'expliquez, ça ?
Oui, alors, donc on a environ 46% des mariages qui se terminent par un divorce. Et on observe une augmentation des divorces en parallèle d'une baisse des mariages. La baisse des mariages étant en partie attribuée au Pax. Mmh. Qui fait que beaucoup d'unions se sont déplacées vers le Pax. En moyenne, les divorces se font... Enfin, le mariage se termine au bout de 15 ans, mais il y a un pic au bout de 5 ans. C'est-à-dire que 5 ans, en général, ça correspond à la petite enfance du premier enfant.
Ça veut dire, en gros, c'est rencontré...
Ce qui signifierait... Oui. Ouais.
On a fait 3 ans. L'amour dure 3 ans,
on a fait 3 ans de célibat. Pas de célibataire, mais je veux dire, en mode... on est à deux, on fait un enfant au bout de 3 ans, et l'enfant a 2 ans, et on veut divorcer.
En moyenne. C'est-à-dire que, pour beaucoup de couples, le virage, le passé de 2 à 3, est difficile. C'est-à-dire qu'il y a un changement de place quand on devient parent. On était un couple d'amants et on va devoir devenir en même temps une équipe parentale. Et pour beaucoup, ce virage est difficile à négocier parce que l'arrivée de l'enfant, que ce soit pour la maman ou pour le papa, réactive sa propre enfance. Donc tout ce qu'il n'a pas réglé dans son inconscient avec ses propres figures parentales, il va le projeter sur l'enfant ou il va le projeter sur sa compagne chez qui il va retrouver les traits de sa mère. Et s'il n'a pas réglé sa relation à sa mère, par exemple, l'homme peut mal le vivre ou inversement, la femme avec l'homme.
Alors justement, ça peut être une cause de divorce, l'arrivée de l'enfant et la création ou la mauvaise création de l'équipe parentale. Mais quelles sont les grandes causes de divorce, Clément ? Alors évidemment, a évoqué l'infidélité, qui est un grand classique. Il peut y avoir des problèmes financiers dans les couples aussi, ça les fragilise. Mais c'est quoi les grands motifs de divorce aujourd'hui ?
Alors, je distingue les causes effectivement visibles, les motifs, infidélité, la maladie, la perte d'un enfant parfois, la faillite économique. Et puis la trop grande divergence de valeurs quand on fonde, c'est-à-dire qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs ou qui vient pas du tout du même milieu, mais que les difficultés liées à cela se réactivent avec l'arrivée de l'enfant dans ce qu'on va vouloir lui transmettre au niveau éducatif. Ça, c'est les motifs conscients. En réalité, il y a toute une partie du livre au début dans l'introduction où je dis qu'il y a aussi les causes profondes de l'augmentation du divorce qui me semblent tout à fait cohérentes avec l'évolution dans l'Occident moderne de notre rapport au lien affectif, de notre rapport à l'engagement, de notre rapport aussi à la frustration.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on est comme l'époque, on est devenu, on s'est tinderisé. Quoi.
Bah, on achète, on jette, quoi, si ça ne nous plaît pas. Quoi.
C'est-à-dire que je crois que l'Occident moderne a une anthropologie qui est un peu fausse. C'est parce qu'on a essayé de redéfinir l'être humain complètement par rapport à sa performance, aux objectifs, à l'image. Et donc, on est dans ce que disait déjà Bernanos après la Deuxième Guerre mondiale. Il disait l'être humain est devenu contribuable et consommateur. Mmh. À partir de là, on dévalorise ce qui a de la valeur, le lien, la relation, la sérénité, l'être, et on survalorise ce qui a un prix, l'avoir, la consommation. Donc quand vous êtes obnubilé par la performance, par l'image, etc., la relation à l'autre qui demande une disponibilité psychique, elle est fragilisée.
Bien sûr. Merci à vous, on reste ensemble dans Bienfait pour vous ce matin. On vous aide si vous avez, je ne sais pas, un divorce, une séparation en vue. Parfois on y pense mais on n'arrive pas à franchir le pas, notamment à cause des enfants. Eh bien, on va parler de ces cas-là aussi, on va vous donner des conseils. Donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on s'intéresse à ces relations amoureuses qui échouent ce matin. Un mariage sur deux termine par un divorce. Alors ça peut évidemment tous nous concerner. On fait le point avec la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont. Vous venez d'ailleurs de publier ce livre, Réussir son divorce, et c'est paru chez Larousse. Alors l'un de vos premiers conseils, c'est dès les premières années de la vie à deux, se dire que la séparation est possible. En fait, savoir qu'on n'est pas propriétaire de son couple, vous pensez vraiment que ça peut aider à mieux vivre ou même à éviter le divorce ?
Tout à fait. Je pense qu'être clair avec la vision qu'on a de l'amour et de la relation et avoir dépassé le stade de l'amour captatif, possessif, et toujours se dire qu'une relation et une personne ne sont pas notre propriété et ne sont pas acquises et sont vivants et sont en évolution, ça permet évidemment de rester dynamique et acteur de la relation. Je dis d'ailleurs que parfois un divorce réussi, c'est une envie de se séparer, assumée, qui passe par une discussion et une séparation momentanée, et moi je l'ai vu chez des patients, et qui permet finalement d'éviter le divorce.
Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher à son couple, c'est ça ? Faut vivre comme une future divorcée ou pas ?
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut avoir conscience que la relation est vulnérable, qu'elle est évolutive et qu'il est important d'en prendre soin. Ça permet de ne pas refouler sous forme de non-dit les difficultés, d'en parler, et donc de dépasser ces obstacles.
Alors, autre chose que vous proposez de faire quand le couple commence à battre de l'aile, c'est de faire un test de personnalité. Ça va changer quoi, ça, le fait de savoir, par exemple, que ben, moi, je sais pas, je suis quelqu'un de très introverti et que mon mari est plutôt une personnalité déterminée. Enfin, pourquoi c'est important, ce point-là ?
Alors, c'est important parce qu'on s'aperçoit que très souvent, la relation échoue parce que le choix s'est fait sur un mauvais discernement. Et aujourd'hui, dans notre culture, on apprend plein de choses aux enfants à l'école, mais on ne leur apprend pas du tout la psychologie, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un psychisme et qu'il peut y avoir des personnes introverties, des personnes extraverties, des personnes qui expriment leur affection par les gestes, d'autres par les cadeaux, d'autres par le langage. Et le fait d'avoir des notions de comment je fonctionne, c'est connais-toi toi-même en fait, hein, si je sais d'où je viens, je sais où je vais. Si on sait comment on fonctionne, et que l'autre fonctionne avec un autre type de personnalité, une autre gestion du stress, on ne prend plus personnellement des réactions inattendues de sa part.
Moi, surtout, on arrête de projeter.
Il faut le faire avant le mariage. Et moi, je dis toujours, le plus beau cadeau de mariage, c'est d'avoir fait 6 mois de thérapie, de bien se connaître et de bien connaître son couple parental et ses modèles. Parce que si vous savez que face au stress, l'autre a tendance à se replier sur lui-même, vous ne vous sentirez pas abandonné quand il dit « Chérie, j'ai besoin de prendre une journée tout seul et d'aller me balader ».
Vous parliez de thérapie.
Vous arrêtez de projeter.
Là, vous parliez de thérapie post, enfin avant justement le, pourquoi pas la mise en couple, en tout cas avant le mariage. Mais quand ça va mal dans le couple, on est parfois tenté d'aller voir un psychothérapeute, un thérapeute de couple. Qu'est-ce que vous faites pour ces couples-là ? Parce que vous n'êtes ni magicien ni.
Alors on n'est pas magicien,
ni
on n'est pas
arbitre,
on n'est pas juge. Qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce que vous voulez repérer les couples où il y a vraiment rien à sauver ? Où il y a toujours un truc à sauver.
Mais l'éthique exige de ne pas de prendre son temps avec ses intuitions cliniques. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, on n'est pas omniscient. Et on peut confondre un moment de conflictualité aiguë et penser qu'il y a de la haine dans le couple. Ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut prendre son temps. Et ensuite, dans la thérapie de couple, on est là pour introduire un tiers qui va permettre à chacun d'exprimer les choses qu'il n'arrive pas à dire en face à face. Peut-être l'un parce qu'il a peur des réactions démesurées de son partenaire ou de sa partenaire. Peut-être l'autre parce qu'il a une culpabilité à ressentir ce qu'il ressent. Et donc nous, on est là pour aider les deux personnes à remettre de l'espace et à exprimer les choses.
Et ça marche ?
Ah mais bien sûr que ça marche. Alors on a aussi bien un rôle à jouer avec des couples qui viennent pour réapprendre à communiquer et redécouvrir avec beaucoup de joie et d'émerveillement les ressources cachées de leur couple. Et ça, c'est évidemment une gratification énorme pour le thérapeute de voir des personnes réapprendre à communiquer et retrouver du plaisir à être ensemble et redécouvrir la tendresse. Mais aussi des personnes qui viennent en me disant « j'ai envie de quitter ma femme, mais je ne sais pas », et qui est dans la culpabilité. Et voir qu'au fil de la thérapie, en fait, cette personne va retomber amoureuse de sa femme. Ça arrive. J'ai eu des exemples de ça.
Bon, ce n'est pas l'exemple qu'on prend aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que notre couple imaginaire, il divorce et il va essayer de bien divorcer. Justement, on a l'impression que le divorce, c'est un mot comme ça, couperé, comme si on divorçait du jour au lendemain. En fait, une séparation, un divorce, pour qu'il soit réussi, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Alors, on n'a pas le temps de toutes les détailler, mais grosso modo, quelles sont les étapes du divorce ?
Il y a d'abord le moment où on se pose la question, on réalise que oui, l'histoire est terminée, elle ne peut pas être sauvée, elle ne peut pas se poursuivre autrement que sous forme de mensonges au nom du conformisme, mais qui va être très délétère, peut-être y compris pour les enfants. Donc il y a ce moment de la prise de conscience, il y a le moment de l'annonce, qui est évidemment aussi difficile pour celui qui annonce que pour celui qui entend. Mais ils ne sont pas dans la même temporalité, c'est-à-dire que celui qui le découvre tombe de sa chaise parce qu'il a refoulé tous les indices qui lui disaient que ça n'allait pas, parfois. Et puis celui qui le dit, évidemment, a le mauvais rôle et peut le dire de manière très blessante parce qu'il perd la maîtrise et qu'il a tellement peur de le dire qu'il le dit d'une manière très froide et très cassante. Donc je donne des conseils dans le livre. Ensuite, il y a la troisième étape qui est celle de la mise en place de la séparation. Comment on sépare deux corps ? Comment on sépare deux vies, comment on sépare deux inconscients.
En pratique aussi, oui.
En pratique, et accepter que séparer deux inconscients, ça prend du temps. Ça prend du temps psychiquement de se déshabiller de l'autre, c'est ce que je dis dans le livre en quelque sorte. Et puis il y a le temps de la reconstruction, se retrouver avec soi et de la guérison, de la convalescence, parce que c'est une blessure du cœur bien évidemment. On s'est déçu, on a été déçu. Et la possibilité un jour de retomber amoureux.
Il y a aussi, vous le dites, hein, cette phase de colère. Vous parliez tout à l'heure un peu de temporalité. On n'a pas la même temporalité. Cette colère, elle peut être à un moment donné bénéfique. Elle est normale déjà ou pas quand on se fait plaquer, qu'on
a envie de tout casser. Bien sûr, mais en fait, la colère, comme la culpabilité, comme toutes les émotions, sont des outils qui sont mis à disposition par l'évolution pour que l'être humain prenne les bonnes décisions. Donc, elle n'est pas en soi mauvaise, la colère. Elle est comme la culpabilité. Si elle est exagérée, elle est destructrice. Mais c'est aussi votre colère, par exemple, pour un homme ou une femme trahie et trompée, qui va lui permettre de rester debout et d'avoir la combativité nécessaire à gérer la situation, à s'adapter avec les enfants, à prendre des décisions pour se protéger. Donc la colère n'est pas en soi mauvaise. Elle est aussi une défense, à un moment donné, contre la dépression.
Mais on fait comment quand on a un partenaire qui ne veut pas divorcer, qui ne veut pas de la séparation, qui se met en colère et qui dit qu'il en est hors de question?
Parce qu'il faut être deux pour divorcer. Ouais.
Tout à fait. Il faut être deux pour divorcer. Et dans ces moments-là, je dis qu'il faut dissocier le temps psychique et le temps juridique. Ça ne sert à rien de se lancer dans une procédure juridique trop vite, puisque si l'autre ne veut pas divorcer, qu'il est dans le déni de la fin du couple, de toute façon, quelles que soient les propositions que vous fassiez, il va les refuser, puisque son but n'est de ne pas trouver un accord et il va trouver un moyen dans la guerre de rester en lien avec vous. Donc dans ces cas-là, il faut supporter que l'autre existe et qu'il a besoin d'un temps plus long que vous pour accepter l'idée de cette séparation.
Vous pensez quoi de l'idée du break avant la vraie séparation?
Mais moi, j'ai constaté que non, c'est une idée reçue de dire que le break conduit forcément à la séparation. Moi, j'ai vu des couples être sauvés justement parce qu'ils assumaient que c'était une cocotte minute qui allait exploser, qu'ils étaient en train d'abîmer leurs enfants, qu'il valait mieux avoir momentanément, dans un cadre qui était défini ensemble, chacun son appartement, et les deux partenaires décidaient ensemble s'ils avaient comment les enfants étaient gardés, s'ils avaient le droit pendant cette période d'aller voir ailleurs, comment on s'organisait pour les finances, en se disant par exemple, on se donne 3 mois pendant lesquels de toute façon on ne se remet pas ensemble. Certains d'ailleurs décidant par contre de se donner rendez-vous chez un thérapeute de couple pour voir ce qu'il en était, ce qui pouvait être sauvé ou pas. Et chez certains, à la fin, ça a permis des belles retrouvailles et de se rechoisir.
Ah bah c'est génial.
Et dans ces cas-là, ça vaut la peine quand même.
Bah évidemment.
Parce que je crois que, bien sûr que le divorce est un traumatisme, mais quand on est un enfant, voir ses parents se détester cordialement et rester ensemble parce qu'on est une famille bien sous tout rapport, ce sont des traces indélébiles. C'est-à-dire que ces enfants... ou n'oseront pas s'engager, parce que pour eux, le couple, c'est un cercueil du bonheur, ou détesteront l'autre sexe en s'identifiant aux parents du même sexe qu'ils ont vu souffrir. Donc peut-être qu'il vaut mieux dire aux enfants, les adultes ne sont pas à l'abri des problèmes, on fait une pause, on va se parler, et puis parfois, après, il y a une issue heureuse dans les retrouvailles.
Et bah, c'est très clair, merci beaucoup Marie-Estelle. On reste encore ensemble un peu, on va continuer à voir comment réussir son divorce, et notamment vis-à-vis aussi de l'entourage, de la famille, des amis. Et puis bien sûr, on va vous conseiller pour bien faire les choses quand on divorce et qu'il y a des enfants au milieu. On y revient très vite, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On apprend comment réussir son divorce aujourd'hui. Celle qui nous conseille toujours sur ce sujet, c'est vous, Marie-Estelle Dupont. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Alors Marie-Estelle, vous évoquez dans votre livre la réaction de la part de la famille face à notre divorce. Et on a parfois, c'est vrai, des attitudes qu'on n'avait pas du tout prévues. Vous prenez le cas de Raphaël. Racontez-nous.
Alors en fait, c'est l'histoire d'un patient qui a été très surpris. En fait, le divorce a été l'occasion pour lui de complètement désidéaliser sa figure parentale parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que sa mère soit dans un déni, probablement totalement stupéfaite parce qu'il n'y avait, jamais eu de divorce dans la famille. C'est rentré tellement en collision avec ses schémas à elle qu'en fait, elle n'a pas pris acte de la réalité de ce divorce. Elle a continué à agir comme s'il n'y avait pas de séparation, ce qui était très violent en fait pour le patient. C'est-à-dire
qu'elle considérait que sa belle-fille était toujours...
Son ex-belle-fille était toujours sa belle-fille, etc., etc. Donc toute la détresse et la difficulté réelle que traversait mon patient, finalement, lui qui avait toujours pensé sa mère très secourable, il s'est trouvé face à un déni. Et puis quand le déni a commencé à craquer, face à du jugement...
Il faut réagir comment dans ces
certains cas,
cas,
notre famille peut être secourable. Dans d'autres, elle ne peut pas l'être parce qu'elle a ses modèles et ses a priori qui font que de toute façon, elle va vous juger. Je crois que c'est très important à ce moment-là de leur dire, écoutez, j'ai beaucoup d'attachement affectif envers vous, mais je traverse une période difficile dans laquelle j'ai besoin soit qu'on me laisse en paix, soit qu'on me soutienne. Et c'est vraiment pas le moment pour moi d'entendre vos projections. Parce qu'il faut vraiment se dire que On n'est personne pour juger quelqu'un qui se sépare. On pourrait tout autant juger des couples qui se mentent en permanence et qui peut-être feraient bien de se séparer pour le bonheur de leurs enfants. Et que dans ces cas-là, la famille se doit d'être bienveillante et de ne pas imaginer savoir à la place de l'enfant qui divorce ce qui est bon pour lui. Et simplement d'être secourable en tant que grand-parent. Je crois que c'est important.
Justement, les enfants, on en parlait tout à l'heure, on a dit que pour eux, justement, parfois, le divorce, c'est pas nécessairement un traumatisme, le divorce des parents, parce qu'avoir des parents qui s'écharpent toute la journée, c'est aussi traumatisant. Comment on annonce bien ? Est-ce qu'il y a une belle façon, une bonne façon d'annoncer à son enfant qu'on va se séparer ? Est-ce qu'il faut nécessairement le faire à deux, le père et la mère présents ? Quels sont vos grands conseils sur ce point-là ?
C'est de se souvenir qu'un enfant, il a d'abord besoin de repères et de cohérence. Donc, évidemment qu'un divorce est un trauma au sens où il fait éclater les repères. Mais comme vous disiez très bien, c'est tout autant un trauma d'avoir des parents qui tape dessus toute la journée. Donc, il est très important, quand on dit à l'enfant que la séparation va arriver, d'abord, il faut être sûr de cette décision. Il ne faut pas lui faire vivre des retours en arrière, etc. Être sûr et lui dire la vérité. On se sépare momentanément pour 3 mois ou on se sépare définitivement. Et de gommer, il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un doute dans son esprit sur le fait qu'il n'est absolument pas responsable de cette séparation.
Donc, il faut lui dire que tu n'y es pour rien.
Séparer le couple d'amants, le couple de parents, lui, il ne bouge pas. Nous sommes toujours tes parents. On ne divorce pas de son enfant. On peut changer d'amoureux, on ne change pas d'enfant. Donc déjà, tu auras toujours tes deux parents. Et tes deux parents t'aimeront toujours. Et ta place d'enfant reste ta place d'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se sépare que tu deviens le réparateur, le séparateur, le thérapeute, l'espion, le médiateur.
On dit tous ces mots à l'enfant, tout ce que vous êtes en train de dire là ?
Non, on se les dit pour bien dire à l'enfant... Pour gommer dans l'enfant tout doute, parce que quand l'enfant vit un éclatement de ses repères, il crée des hypothèses pour s'attribuer la cause de ce qui se passe, pour se consoler, se dire c'est de ma faute, j'ai pas été sage.
Il faut lui dire donc, c'est
maman,
pas ta faute. Faut
maman est
dire.
Déprimée parce que j'ai des mauvaises notes, les parents se séparent parce que j'ai pas été sage.
Donc faut lui dire
donc,
ça, c'est
dire,
pas
ça
ta
n'est
faute.
Pas ta responsabilité.
D'accord.
Tu es la conséquence de notre amour. Tu n'es pas la cause de notre amour et tu n'es pas la cause de notre désamour. D'accord ? L'enfant, il ne fait pas les parents, il ne défait pas les parents. Donc ça, c'est extrêmement important. Et très vite, parce qu'en fait, un enfant se pose la question de « est-ce que mes parents m'aiment ?» et « comment va être ma vie ?» Donc vous le rassurez sur l'amour inconditionnel, sur le fait que l'autre parent qui quitte la maison est toujours son parent, qu'il y aura accès autant qu'il le souhaitera. Quelle que soit la décision du juge, je crois que c'est important de dire à l'enfant, si tu as envie de voir papa, on appellera papa, on mettra les choses en place. Et puis, de vraiment rassurer l'enfant sur comment va se passer sa vie. Tu ne changes pas d'école, le déménagement aura lieu à tel moment, on va aller voir la nouvelle maison avant. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin de choses concrètes pour se projeter, se représenter la réalité de sa vie au quotidien.
Alors, on a une question un peu de Clara qui est apparue sur Instagram. Elle vous demande, quelle est la meilleure garde alternée pour les enfants ? Est-ce qu'il y a une formule idéale pour préserver leur bien-être ?
Alors, moi, mais c'est mon opinion, elle ne représente pas toute ma profession. J'ai tendance à trouver que la garde alternée, elle est très difficile à vivre pour les enfants. Parce qu'avoir deux domiciles, c'est très compliqué. Donc, moi, je recommande plutôt qu'il y ait un des parents qui ait la garde officiellement. Simplement, la garde officielle, ça veut dire qu'il voit l'autre parent qu'un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et on peut tout à fait assouplir ça à l'amiable et dire, écoute, les week-ends où tu l'as, c'est pas samedi, dimanche, c'est du vendredi sortie d'école au lundi matin école, comme ça on ne se croise pas et en plus tu as une soirée supplémentaire. Et si tu veux le prendre plus pendant tes vacances, évidemment tu peux, et mettre de la souplesse pour qu'il ait plus de temps en quantité avec l'autre parent, mais en évitant la garde alternée semaine A, semaine B, qui est quand même très difficile.
Surtout
en termes d'ancrage
pour
l'enfant, et particulièrement pour les tout-petits, où là je crois quand on se sépare avec un enfant qui a en âge 0-3 ans, il faut vraiment faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant et les besoins liés au développement d'un bébé qui n'a pas encore ce qu'on appelle la permanence de l'objet, en fait, qui ne sait pas que le parent continue d'exister quand il n'est pas là. C'est important de créer vraiment des temps fréquents, pas très longs, mais fréquents, avec l'autre parent. Bah tiens, t'es en télétravail le mardi, bah écoute, va la chercher à la crèche, balade-toi au parc, tu me la redéposes, et mettre dans sa poche son ego, parce que vraiment les besoins du bébé sont spécifiques, et que pour que le lien d'attachement se crée avec les deux figures parentales, c'est très important de créer des liens fréquents, répétés, réguliers avec les deux parents.
Et je voudrais vraiment rassurer tous les parents qui nous écoutent, une fois que le gamin a plus de 15 ans, et ben vous le voyez plus du tout, donc il n'y a plus de problème de garde alternée.
Et surtout, parlez à votre bébé, c'est pas parce que le bébé ne peut pas parler qu'il ne comprend pas, c'est quand vrai. Vous mettez des mots sur la réalité. Il a le droit d'avoir une parole sur ce qui lui arrive, c'est un être humain.
Et donc on l'annonce même à un bébé.
Donc
en
le
fait.
Bébé est une personne, le bébé n'est pas personne.
Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h pour en savoir plus sur ce sujet. Je rappelle qu'il y a aussi votre livre sur le sujet, Réussir son divorce chez Larousse. Merci encore, on change de sujet maintenant.
Et oui, puisqu'à suivre, ce sont les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 qui vont nous rejoindre. Gavin Clémenté-Ruiz du Guide du Routard va nous suggérer de partir en vadrouille en Écosse. Il a repéré de beaux spots là-bas à explorer. Et puis après ça, on va vous mettre en appétit grâce à la recette du jour de Perla Servan-Schreiber. C'est un gâteau de légumes de Pâques, donc je vous le conseille, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour très vite dans Bienfait pour vous sur Europe 1 avec les conseils touristiques et gourmands de nos bienfaiteurs. Mais pour le moment, place à la musique avec un classique qui fait toujours du bien. C'est Louise Attaque, Je t'emmène au vent sur Europe 1.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Et viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te
d'entendre le groupe Louise Attaque avec leur tube Je t'emmène au vent. Alors juste avant de retrouver nos bienfaiteurs, je vous rappelle qu'Europe 1 est partenaire du festival Cannes Série et que vous pouvez voter sur europe1.fr pour le prix Europe 1 du public. Alors c'est la dernière ligne droite aujourd'hui pour voter d'ailleurs, alors foncez et élisez votre série française préférée parmi les 20 en compétition. Allez, tout de suite, place aux bienfaiteurs d'Europe.